Que dit Dieu dans Romains chapitre 2 ? Romains chapitre 2, versets 1 à 29. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu ? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul explique comme étant la faiblesse de la foi légaliste des Juifs ? Dans Romains 2, l'apôtre Paul aborde directement la vie religieuse des Juifs et explique clairement pourquoi une foi judaïque seule ne peut conduire au salut. Le but de Paul n'est pas simplement de condamner les Juifs, mais de les conduire vers le véritable Sauveur, Jésus-Christ. Le défaut fondamental de la foi judaïque que Paul met en évidence est que, bien qu'ils aient de l'orgueil à connaître la volonté de Dieu, ils manquaient en réalité de la capacité de se rendre eux-mêmes justes en accomplissant cette volonté. Les Juifs possédaient la loi, observaient les traditions et s'accrochaient à leur identité en tant que peuple de Dieu, mais Paul affirme que ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés devant Dieu, mais seulement ceux qui la mettent en pratique, impliquant ainsi que personne ne peut garder parfaitement la loi. En d'autres termes, le judaïsme est une foi qui avait la forme de la piété, mais qui manquait de la puissance réelle pour résoudre le problème du péché. De plus, Paul met en évidence l'hypocrisie des Juifs qui, tout en condamnant les païens, commettaient eux-mêmes les mêmes péchés. Ils ont ignoré le fait que, devant la loi, qui était la norme même par laquelle ils jugeaient les autres, eux-mêmes étaient des êtres incapables d'échapper au jugement, restant dans la connaissance sans repentance et dans le jugement sans salut. Paul souligne que le jugement de Dieu n'est pas exempté par la lignée ou la tradition, mais qu'il est exécuté selon la vérité et les œuvres de chacun. La loi n'est pas un privilège, mais une responsabilité, et une norme de jugement plus stricte est appliquée à ceux qui ont reçu la loi. La tradition en elle-même n'est pas le problème, mais un problème survient lorsque cette tradition en vient à remplacer la volonté de Dieu. Les Juifs s'appuyaient sur le fait qu'ils étaient en circoncis et se reposaient sur la possession de la loi, confondant une vie religieuse formelle avec le salut. À ce sujet, Paul souligne avec force la limite d'une foi où seule la forme demeure et où la substance a disparu, en disant que la circoncision n'a de valeur que si l'on observe la loi, mais si l'on transgresse la loi, cette circoncision n'est pas différente de l'incirconcision. Dans la dernière partie de Romains 2, Paul présente un tournant décisif. Il déclare qu'un véritable juif n'est pas défini par l'apparence extérieure et que la circoncision n'est pas une marque physique sur le corps. Au contraire, il souligne qu'une personne dont l'être intérieur est transformé est un véritable juif et que la circoncision doit être faite dans le cœur par l'esprit et non par la lettre de la loi. C'est une déclaration selon laquelle on ne peut pas atteindre la justice par l'effort humain ou la tradition, mais que ce qui est nécessaire, c'est un cœur nouveau et un esprit nouveau donné par Dieu, c'est-à-dire la nouvelle alliance en Jésus-Christ. En conclusion, le cœur de Romains 2 est qu'une foi judaïque peut révéler le péché, mais ne peut pas l'enlever, et que la tradition ou les formes extérieures ne peuvent pas produire une véritable justice. Ce dont l'humanité a réellement besoin n'est pas la détermination à garder la loi, mais le salut lui-même, par lequel le cœur est renouvelé par l'Évangile. Ainsi, Romains 2 n'est pas un chapitre destiné à nier la foi des Juifs, mais un chapitre destiné à achever la foi dans l'Évangile de Jésus-Christ, qui est nécessaire à la fois aux Juifs et aux païens, en révélant les limites de la tradition et le véritable but de la loi. Concernant le fait que l'on ne peut pas rencontrer Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, en suivant les traditions de la foi, même aujourd'hui, que ce soit dans le judaïsme ou dans le christianisme, tant que l'on suit des traditions théologiques fabriquées par l'homme, personne ne peut réellement rencontrer la justice de Jésus-Christ. Ce n'est pas un problème limité à une époque particulière, mais une question concernant l'essence de l'Évangile. Et l'erreur que Paul a soulignée dans Romains se répète aujourd'hui de la même manière. La raison pour laquelle les traditions théologiques humaines obscurcissent la justice de Jésus-Christ est qu'elles s'éloignent de la foi qui consiste à croire en ce que Dieu a accompli, et qu'elles établissent à la place une manière organisée et systématisée par l'homme de comprendre le critère du salut. De même que le judaïsme cherchait à obtenir la justice par la loi et la tradition, le christianisme d'aujourd'hui tente aussi d'assurer la justice par des systèmes doctrinaux et des actes religieux. Leur point commun réside dans le fait de croire que la justice ne vient pas comme un don de Dieu, mais qu'elle provient des actes religieux humains. Les traditions fabriquées par l'homme peuvent produire du zèle religieux, mais elles ne peuvent jamais donner la justice de Dieu qui enlève fondamentalement le péché. Les traditions théologiques n'y peuvent expliquer la Bible, mais elles ne peuvent pas porter le fardeau du péché à la place de l'homme. La doctrine analyse Jésus, la tradition fragmente son œuvre, et les systèmes réduisent de l'Évangile à un cadre facile à comprendre pour l'homme. En conséquence, beaucoup disent « croire en Jésus ». Mais il reste dans une foi conceptuelle sans réellement savoir comment il a véritablement enlevé le péché. C'est l'état actuel d'une foi qui parle de Jésus-Christ, mais qui n'atteint pas sa justice. Dieu savait que le problème du péché ne pouvait pas être résolu par la théologie ou la religion humaine, alors il a envoyé directement Jésus-Christ sur cette terre. Le but de la venue du Seigneur n'était pas simplement d'enseigner les pécheurs, mais d'enlever réellement leur péché. Par conséquent, l'œuvre de Jésus n'était pas une réforme morale ni un mouvement religieux, mais un événement qui a accompli dans l'histoire la réalité du salut préfiguré dans l'Ancien Testament. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour l'humanité est très précise et concrète. Premièrement, en étant baptisé par Jean, Jésus a pris sur son propre corps tous les péchés de l'humanité. Et c'est l'événement où le système de l'imposition des mains de l'Ancien Testament a été accompli comme une réalité. Ensuite, portant les péchés qui avaient été transférés par le baptême, il a reçu le juste jugement de Dieu sur la croix. Dieu n'a jamais ignoré le péché, il a établi la justice en déversant ce jugement sur le Fils qui a porté le péché. Enfin, la résurrection de Jésus confirme que le prix du péché a été entièrement payé et que la justice de Dieu a été accomplie sans aucun manque. Tout ce processus est l'histoire du salut accompli par Dieu lui-même, sans l'intervention des actes religieux humains. La raison décisive pour laquelle on ne peut pas atteindre la justice de Christ en s'attachant aux traditions humaines est que la tradition demande toujours aux hommes ce qu'ils doivent encore faire et met l'accent sur la manière dont ils peuvent de mieux croire. Cependant, l'Évangile déclare « Tout est accompli, et enseigne que la foi n'est pas une réalisation humaine, mais l'acceptation d'un fait déjà accompli. La tradition est centrée sur l'homme, produisant une insuffisance sans fin et une repentance répétée sans assurance, mais une foi centrée sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ accorde l'assurance et l'audace de celui qui a déjà reçu la rémission des péchés. Le salut ne vient pas d'une compréhension approfondie de la théologie, mais il est donné lorsque l'on croit exactement ce que Jésus-Christ a réellement accompli pour les péchés de l'humanité. Le Seigneur n'est pas venu simplement pour laisser des enseignements, mais il est le véritable Sauveur venu pour enlever le péché et accomplir la justice.